Vous écoutez, on lit pour vous.
La gratuité pour les aînés montre de premiers résultats un texte d'Henri Ouellette-Vézina paru le 27 avril 2024 dans la presse. Les effets de la gratuité des transports en commun pour les 65 ans et plus commencent à se faire sentir à Montréal. En l'espace de 6 mois, la mesure a généré plus de 10 millions de déplacements en plus de faire bondir l'achalandage de 15 à 20% dans cette tranche d'âge. Il faut vraiment que ça reste, cette mesure. Ça a beaucoup aidé les gens de mon âge qui ont décidé de sortir un peu plus, de briser l'isolement. C'est vraiment une bonne idée qu'ils ont eue et ça doit se poursuivre, lance Denise Sauvé, une résidente de Villeray, qui utilise régulièrement le métro. La Montréalaise se dit d'ailleurs enthousiasmée par ses résultats préliminaires qu'elle veut voir continuer d'augmenter. Surtout pour les gens moins nantis. C'est certain que ça relance l'achalandage. Si on retirait ça en raison du contexte financier, c'est certain que les plus âgés vont tout simplement l'abandonner, juge Madame Sauvé, qui espère aussi éviter les coupes de services appréhendées dans le transport collectif. On viendrait vraiment créer une autre impasse, dit-elle. Dans un rapport rendu public récemment par la Ville de Montréal, on apprend qu'à la fin de 2023, environ 47% de la population de 65 ans et plus avait souscrit à l'offre de gratuité dans le métro et les autobus. Dans la métropole seulement, cela représente plus de 166 000 aînés sur un total d'environ 353 500. Au bout du compte, la gratuité a ainsi généré une hausse de 15% à 20% des déplacements en transport collectif pour cette tranche d'âge, lit-on dans le document, qui précise que 70% des utilisateurs du transport adapté ont aussi 65 ans et plus. À la Société de transport de Montréal, STM, le président, Eric Alan Caldwell, parle de « résultats formidables ». Selon lui, l'exploit derrière cette initiative aura été de réussir à ajouter de la clientèle sans que ça coûte plus cher. Environ 74% des déplacements dans cette tranche d'âge se font en dehors de la pointe et pour les 26% qui restent, on compte sur la capacité résiduelle du métro. On n'a donc pas eu besoin d'augmenter les dépenses ni les coûts pour augmenter l'achalandage, dit-il. 40 millions par année. La gratuité du transport collectif pour les 65 ans et plus a été officiellement annoncée dans le dernier budget de la Ville de Montréal, en novembre dernier, mais il s'agit d'une promesse phare du parti de Valérie Plante depuis 2017, année où la mairesse a été portée au pouvoir pour la première fois. Cette mesure coûte 40 millions annuellement à la ville. Fait à noter toutefois, comme cette nouvelle mesure incitative n'a été mise en place qu'au mois de juillet 2023, elle n'a coûté que 24 millions pour sa première année. À l'instar de la mairesse Valérie Plante, le président de la STM estime que les critiques concernant la gratuité chez les aînés sont infondées, puisque cette dépense est liée à son budget et non au paiement versé à l'ARTM. D'aucune façon, ça n'affecte la contribution qu'on donne au déficit. Au contraire, comme notre contribution est basée sur le nombre de passagers, plus j'ai de personnes aînées qui rentrent dans le métro, plus je donne d'argent à l'ARTM, avait illustré Mme Plante en novembre 2023. Oui, ça coûte de l'argent. Mais la Ville de Montréal le paie en plus de sa contribution au transport collectif. C'est une mesure sociale que la Ville a décidé d'assumer, souligne Eric Alan Caldwell. L'ARTM, de son côté, précise par courriel que, pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2023, la Ville de Montréal a versé un montant de 17,5 millions pour compenser les revenus tarifaires qui n'ont pas été payés par les usagers dans le cadre de la gratuité. Pour la suite, persiste Eric Allan Caldwell, rien ne nous indique qu'il y aura une diminution de l'adhésion au programme de gratuité. Au contraire, on s'attend à ce que ça continue d'augmenter encore et encore, affirme celui qui est également conseiller municipal dans le district d'Hochelaga. En mars 2023, soit tout juste quelques mois avant l'implantation de la gratuité pour les 65 ans et plus, une étude de l'Université McGill avait d'emblée révélé qu'environ 4 aînés sur 10 utiliseraient davantage les transports en commun dans la métropole en raison de ce programme. L'histoire jusqu'ici, 3 octobre 2017, lors de sa première campagne pour obtenir la mairie de Montréal, Valérie Plante promet la gratuité des transports en commun pour les enfants et les personnes âgées. 1er juillet 2021, auparavant réservé aux 6 ans et moins, l'accès gratuit aux transports en commun montréalais est étendu à tous les enfants de 11 ans et moins. 1er juillet 2023, l'accès aux transports en commun devient gratuit à Montréal pour les aînés de 65 ans et plus. C'était la gratuité pour les aînés montre de premiers résultats. Un texte d'Henri Ouellette-Vézina, paru le 27 avril 2024, dans la presse.
Comment sortir la confusion du bac? Un texte de Valérie Simard, paru le 17 mai 2024 dans la presse. S'agit-il d'un emballage? En plastique? Souple? Quel numéro? Est-ce que ça s'étire? L'arbre de décision pour savoir ce qui va au bac de recyclage n'a pas été élagué depuis belle lurette. Un système d'étiquetage simple ne faciliterait-il pas la vie des citoyens? Pendant son voyage en France, Gilles Bouliane, lecteur de cette rubrique, a été émerveillé par les pictogrammes affichés sur plusieurs biens de consommation. Depuis l'été 2022, la France déploie l'infotri, une signalétique qui montre clairement le chemin que devrait prendre un objet après usage. Même les piles, appareils électroniques, articles de sport, meubles et textiles sont concernés. Au Québec, après 3 décennies de collecte sélective, les citoyens en sont encore à se demander si un sac de chips peut être mis au recyclage. Pourquoi n'est-il pas obligatoire que tout contenant vendu au Canada ait une telle indication? Demande Gilles Bouliane. Nous ne sommes pourtant pas des génies du tri. Selon un sondage léger commandé par Éco-entreprise Québec, EEQ, et dévoilé en janvier dernier, même si 86% des Québécois pensent faire les choses correctement, un citoyen sur deux, 47%, croit à tort que les jouets en plastique peuvent être placés dans le bac de récupération, 33% que le papier d'aluminium n'y a pas sa place. 47%, près de la moitié des répondants, pensent qu'ils récupéreraient beaucoup plus, 16%, ou un peu plus, 31%, que maintenant, s'ils savaient davantage ce qui doit ou ne doit pas être mis au bac de récupération. Source: portrait des comportements et des attitudes des citoyens québécois à l'égard des 3RV, Recyc Québec 2021. On peut difficilement s'attendre à ce que la population soit des spécialistes en matière et en éco-conception, affirme Sylvain Allard, professeur à l'École de design de l'UQAM et expert en éco-conception des emballages. La notion de communication est très importante. La confusion règne, particulièrement au rayon des emballages, alors que la multiplication des types de matières et leurs mélanges ont beaucoup complexifié le travail de tri demandé aux citoyens. Même lorsque la mention « recyclable » est présente, celle-ci est parfois trompeuse. « C'est du n'importe quoi », dénonce le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, FCQGED, Karel Ménard. Dans l'absolu, oui, tout est recyclable. Mais ça ne veut pas dire que ça va être recyclé. Parfois, ce ne l'est pas au Québec parce que les technologies n'existent pas ou qu'il n'y a pas de débouché pour cette matière. Ainsi, même si la loi sur la concurrence et la loi sur la protection du consommateur peuvent s'appliquer à une entreprise qui ferait des représentations trompeuses, aucune réglementation n'encadre spécifiquement les indications liées à la recyclabilité. Même l'utilisation du fameux ruban de Möbius, symbole universel du recyclage, n'est pas réglementée, si bien que, selon Karel Ménard, on ne peut pas s'y fier. Par exemple, de nombreux sachets autoportants, de plus en plus utilisés pour emballer granola, fruits ou craquelins, affichent le ruban de Möbius en plus du numéro de résine, alors que ces contenants en plastique souple, souvent multicouches, ne sont pas acceptés dans la plupart des centres de tri québécois. Des emballages qui sèment la confusion. Ne pourrait-on pas s'inspirer de la France pour adopter un système de pictogrammes clair? Pour un designer graphique comme Sylvain Allard, qui a participé à la production d'un documentaire sur la problématique des emballages intitulé « Tout déballé », le défi est séduisant. C'est assez complexe de créer un système qui ne prend pas trop de place et qui est très clair. C'est un beau projet. Le genre de projet qui m'intéresserait, lance celui qui juge positivement les pictogrammes français. Un tel système est difficile à mettre en place au Québec, voire au Canada, parce que les matières acceptées dans les centres de tri varient d'une région à l'autre et qu'une proportion importante des produits que l'on consomme sont produits à l'extérieur de la province ou du pays. Ça ne vaut pas la peine d'avoir un étiquetage spécifique pour le Québec quand on n'a pas les volumes pour ça, fait valoir Philippe Quentin, vice-président responsabilité des producteurs chez Éco-Entreprises Québec. Le coût de faire l'étiquetage spécifique pour le Québec deviendrait nécessairement un surcoût pour les consommateurs. L'occasion d'agir. EEQ, qui représente les producteurs mettant en marché des produits emballés, des contenants et des imprimés, prendra en charge la gestion des matières recyclables au Québec à compter de janvier 2025. Cette importante modernisation de la collecte sélective entraînera une uniformisation des matières acceptées dans le bac de récupération. Pour Karel Ménard, il s'agit d'une occasion en or d'adopter des règles d'affichage claires et normées. EEQ dit également souhaiter la mise en place d'un programme balisé. Ottawa désire encadrer à tout le moins l'étiquetage des emballages en plastique. Un projet de règlement a mené à des consultations en 2023. Or, sa compétence pour légiférer sur les articles en plastique a été contestée en Cour fédérale. Débouté, le gouvernement fédéral a fait appel de cette décision. Le développement du projet de règlement est en suspens jusqu'à nouvel ordre, indique Environnement et changement climatique Canada. Selon Karel Ménard, un tel projet pourrait complexifier la situation puisqu'au niveau de la récupération, le Canada est une mosaïque de systèmes. Revient-il donc à Québec de se pencher sur la question? Les règlements sur l'emballage et l'étiquetage relèvent du domaine fédéral, déclare le porte-parole de Recyc Québec, Moïse Alex Docteur. Or, la loi sur la qualité de l'environnement indique que le gouvernement provincial peut régir l'étiquetage de contenants ou d'emballages pour encadrer l'usage de symboles destinés à informer les usagers des avantages ou inconvénients qu'ils comportent pour l'environnement. Questionné sur ses intentions, Le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs indique qu'il revient à EEQ de mettre en place les mesures nécessaires pour respecter les exigences réglementaires. Puisque la complexité du tri ne reposera plus sur les citoyens. Un projet de réglementation portant exclusivement sur l'étiquetage de ces produits n'est pas envisagé pour le moment, ajoute José Guimond, porte-parole du ministère. L'apparition d'indications claires sur les contenants et emballages n'est donc pas pour demain. Le ciel devrait néanmoins s'éclaircir à partir du 1er janvier. Tous contenants, emballages et imprimés pourront être déposés dans le bac de récupération, à l'exception de la styromousse qu'il faudra apporter dans des points de dépôt. Il reviendra aux producteurs de trouver des débouchés. Pour développer le marché, il faut accumuler un certain volume de matière, estime Philippe Quentin. D'ici là, les citoyens peuvent consulter l'application « Ça va où ?» qui permet de trouver rapidement la direction que doit prendre un produit. C'était « Comment sortir la confusion du bac », un texte de Valérie Simard, paru le 17 mai 2024 dans La Presse.
Le fleuve Saint-Laurent, raconté par Hélène Raymond. Un texte d'Audrey Lavoie, paru le 3 avril 2024 dans le magazine Caribou. Ça fait une bonne dizaine d'années que l'idée a germé dans la tête de la journaliste et autrice Hélène Raymond. Cette idée qu'il fallait rendre ses lettres de noblesse au fleuve Saint-Laurent et à toutes les espèces qui y vivent. En résulte un livre, quasi encyclopédique, qui dresse le portrait de notre garde-manger marin et des différents acteurs qui gravitent autour de l'industrie de la pêche. Un bel ouvrage qui nous fait réfléchir à notre rapport à ce fleuve qu'on tient peut-être un peu pour acquis. Quel est ton lien avec le fleuve Saint-Laurent? Pourquoi as-tu eu envie de lui consacrer un livre? Il y a d'abord une idée de faire une suite aux deux premiers livres dans lesquels je m'intéressais aux saveurs du monde et local, puis à l'agriculture, au rapport de proximité entre l'agriculture et le territoire. Je trouvais qu'il manquait quelque chose sur les pêches, sur notre garde-manger marin, un sujet dont on parle peu. C'est probablement comme ça que l'idée d'un ouvrage sur le Saint-Laurent m'est venue. J'ai un rapport particulier au fleuve. Je suis née à la Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent, et j'ai passé mes étés d'enfance et d'adolescence au bord du fleuve, à Rivière-Ouelle, en face de cette immensité-là. Je viens aussi d'une famille où les vacances d'été, ça ne se prenait pas pour aller à Toronto ou à Montréal. On allait plutôt du côté des Maritimes, de la Gaspésie, de la Côte-Nord. Ma mère a des origines gaspésiennes. Son père vient de la Gaspésie. Il n'y avait pas de pêcheurs dans ma famille, mais il y avait un intérêt pour eux, pour le fleuve, puis pour les poissons. Après, c'est clair que c'est mon travail à Radio-Canada et qui a continué à faire grandir ce lien. Le fait de pouvoir aller partout sur le territoire, de suivre l'ouverture de la pêche aux crabes de la zone 17, d'avoir été sur les quais à Terre-Neuve après le moratoire sur la pêche de la morue, ça m'a marqué, ça m'a frappé. Au fil des années, avec ton travail à la radio de Radio-Canada, où tu as notamment animé pendant de nombreuses années, d'un soleil à l'autre, une émission quotidienne consacrée à l'agriculture et l'alimentation, j'imagine que tu as été témoin de l'éveil des Québécois pour les produits marins d'ici, qui étaient peut-être moins accessibles pour certains ou moins populaires pour d'autres. Oui, je l'ai constaté et je vois que ce n'est pas terminé. Il y a des ponts qui se construisent grâce à des initiatives comme Fourchette Bleue ou Mange ton Saint-Laurent, entre autres. Je pense que les gens en sont de plus en plus fiers, de plus en plus conscients de la richesse qu'ils ont au Québec. Pendant des années, on a tourné le dos au fleuve. On n'a pas appris à aimer le poisson parce que c'était l'aliment du vendredi, des jours maigres. C'était la punition. Mais c'est en train de changer. On a souvent l'impression, quand on entend parler des produits du Saint-Laurent, que c'est compliqué. Entre les quotas, les exportations, les prix, les raretés, l'accessibilité, est-ce que c'est une industrie qui est un peu embourbée dans toutes ces contraintes? Je ne sais pas si je peux aller jusqu'à dire embourbée, mais je pense que c'est complexe, en effet. Je pense que ce qui est particulier, c'est qu'on a affaire à des espèces sauvages. On est dans un milieu dans lequel les espèces interagissent les unes avec les autres. Devant cette immensité et cette complexité, on a un petit peu de mal à jauger rapidement de l'état des populations. On le constate en ce moment avec le déclin de la crevette nordique. Donc, moi, je crois que l'apport de la science est primordial pour avoir une vision macro de la situation. Pour le reste, c'est peut-être compliqué, mais l'important, c'est de redonner une voix aux pêcheurs. Je vois beaucoup de parallèles avec ce qui s'est passé dans le secteur du lait et de la naissance des fromages artisans. Les artisans ont bataillé fort pour avoir le lait qu'ils voulaient, de changer la route du camion-citerne pour qu'il vienne leur porter tel ou tel lait, etc. C'est un peu ce genre de bataille qu'on voit en ce moment dans le milieu de la pêche. Il y a des gens qui ouvrent des brèches. L'entreprise Chasse-Marée est un bel exemple. Ce qui se passe avec les algues, c'en est un autre. Mais ça reste un système qui est extrêmement complexe et qui est mondialisé depuis toujours. Les Français exportent je ne sais quel pourcentage de leurs produits marins. On est dans ce modèle partout, et lui résister, c'est possible, mais ça prend des nerfs et de la patience. Un des avantages de ce modèle au Québec, qui n'est pas souvent soulevé, c'est que les usines de transformation sont implantées dans les régions maritimes. Ça reste un milieu où la première, voire la deuxième transformation, se fait encore en région maritime. On fait de l'exportation de matières premières, mais il y a quand même une activité économique qui se fait dans ces régions, qui est importante pour elles. Tu avais déjà beaucoup de connaissances sur le milieu marin du Saint-Laurent avant l'écriture de ce livre. Après 10 ans à être plongé dans ce sujet, qu'as-tu découvert de plus surprenant? Je te dirais que j'ai découvert une espèce de détermination commune chez pas mal tout le monde, du milieu scientifique, du milieu des pêches et de la part des principaux acteurs. L'idée qui veut qu'à partir du moment où on tend l'oreille, on tend un micro, on entend des gens drôlement préoccupés, drôlement éveillés, qui veulent qu'on parle d'eux. Ça, je pense que ça pourrait être une des choses que je retiens. J'ai également découvert un milieu multiple, avec des captures diverses, avec des façons différentes de pêcher, sur des territoires différents. J'ai été surprise par l'immensité du territoire de pêche. De Tadoussac à Blanc-Sablon, c'est hallucinant de démesurer ce Québec-là. Qu'autant de gens continuent de pratiquer cette activité-là partout. Ça ne fait pas une grosse densité de pêcheurs au kilomètre carré quand on regarde ça. Mais ce sont des gens qui continuent d'animer le fleuve, de vivre autour de lui. Dans la préface de ton livre, la chef Colombe Saint-Pierre dit que nous devons aujourd'hui, plus que jamais, considérer l'importance du rôle du fleuve Saint-Laurent dans notre identité québécoise. Quel est ce rôle-là pour toi? Un rôle nourricier. Quand on parle d'autonomie alimentaire au Québec, on l'oublie souvent. On fait tout naturellement des liens avec l'agriculture, mais on oublie souvent d'inclure le fleuve là-dedans. On ne sait pas ce qui a survécu de la tradition culinaire dans les régions maritimes, mais ça fait partie de notre histoire culinaire, de notre patrimoine. C'est ça qu'il faut arriver à se réapproprier. Parce que le Québec, c'est aussi ça. Le Québec, c'est aussi son fleuve et les ressources qu'il contient. Questions en rafale. La plus belle vue sur le fleuve, elle est où selon toi? J'ai l'impression de rentrer chez moi quand je suis sur l'autoroute 20 en m'en allant vers l'est. Je passe le viaduc de Saint-Roch-des-Aulnais et je vois cette étendue immense devant moi. Là, je trouve que la vue est particulière. J'aime aussi la vue du promontoire de la Côte des Chats, à Saint-Pacôme, où on voit les méandres de la rivière Ouelle, le fleuve, les villages. C'est absolument fabuleux. Ton produit marin? Ton poisson? Ton fruit de mer préféré? Le flétan de l'Atlantique. Sa chair est ferme, d'une grande délicatesse. Pourtant, son goût n'est pas plate, pas neutre. C'est un poisson qui se tient bien dans l'assiette. C'est un très, très beau poisson. La meilleure façon, selon toi, de manger le homard? J'essaie en ce moment de multiplier les façons. J'aime beaucoup les guédilles au homard quand on arrête sur la route dans les cantines. Mais un party de homard au printemps, avec des amis, du vin, il n'y a pas grand-chose pour battre ça. Mais notre défi, à propos du homard, c'est de prolonger la consommation sur l'année et d'en manger plus souvent, d'en mettre de côté pour le cuisiner à l'année. Le plus bel endroit pour aller pêcher, c'est où? Et on y pêche quoi? Je pêche, mais plus dans les lacs qu'au bord du fleuve. Je serais toutefois curieuse d'aller essayer la pêche au bar rayé dans la baie des Chaleurs cet été. Se retrouver sur un bout de quai, c'est toujours le fun, parce que ça permet de parler au monde. Je trouve que la pêche sur les lacs, c'est une activité plus solitaire. C'était le fleuve Saint-Laurent, raconté par Hélène Raymond. Un texte d'Audrey Lavoie, paru le 3 avril 2024 dans le magazine Caribou.